France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Pourvoi en cassation ou grâce présidentielle? C'est à cette question que semble devoir se résumer ce matin l'avenir de Christophe Glaize. Au lendemain de la confirmation par la justice algérienne de sa condamnation en appel, nous écouterons son frère qui en appelle lui à la mobilisation du monde du football. On parlera union de la gauche à l'occasion des prochaines municipales en France. On écoutera par ailleurs le cri de colère des élus de la Creuse, oubliés de la ligne Bordeaux-Lyon. À suivre également la visite d'Emmanuel Macron en Chine, mais aussi de Vladimir Poutine en Inde. Enfin, on évoquera un nouveau type d'OGM dans l'agriculture au sein de l'Union européenne. C'est un cri de désespoir en même temps qu'un cri d'appel qu'a lancé ce matin Maxime Glaize au lendemain de la condamnation en appel de son frère Christophe à 7 années de prison par la justice algérienne. Un verdict accueilli évidemment avec stupeur par ses proches. Le journaliste français était poursuivi, on le rappelle, pour apologie du terrorisme, pour s'être entretenu dans le cadre de son travail avec le responsable d'un club de foot, par ailleurs impliqué dans le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classée organisation terroriste par Alger. Une sanction si sévère qu'elle interroge encore ce matin. Christophe Glaize a-t-il fait les frais d'une campagne particulièrement agressive lancée par le pouvoir contre ce mouvement indépendantiste? En clair, paye-t-il les conflits politiques internes propres à l'Algérie ou bien sa seule nationalité ôtait-elle toute inclination à la clémence? Ce matin, le président Emmanuel Macron a fait part de sa profonde inquiétude tout en promettant de continuer d'agir auprès des autorités algériennes pour obtenir sa libération et son retour en France dans les plus brefs délais. De son côté, l'avocat de Christophe Glaize dénonce une parodie de justice et dit réfléchir à la possibilité pour son client de se pourvoir en cassation. Quant à son frère, invité donc ce matin de nos confrères de France Inter, il estime qu'il n'y a plus aujourd'hui qu'un contre-pouvoir pour permettre la libération de Christophe, le football.
On avait beaucoup d'espoir et on a été sous le choc. C'est un peu comme si on se prend un chaos dans un ring de boxe. On a cru à sa libération et là, on a ce sentiment d'être avoir été mené un peu en bateau. Mais c'est vrai que maintenant, là, c'est un cri de désespoir, un cri d'appel. Et je me dis que si les diplomaties sont un peu...
Impuissantes,
ouais. Il n'y a plus qu'un contre-pouvoir, que ce soit le foot. Et j'espère que le foot pourra sauver mon frère. Donc j'en appelle à tous les clubs de France, tous les clubs d'Algérie, tous les clubs du monde, peu importe, à soutenir cette cause. Et peut-être que le foot libérera mon frère.
Qu'est-ce que vous espérez pour obtenir enfin la libération de votre frère?
On va essayer l'option la plus courte parce que c'est un enfer, un cauchemar que l'on subit depuis un an et demi. Et donc, la grâce présidentielle serait la possibilité de liberté la plus proche. Sauf que on a appris il n'y a pas longtemps que si on passe en cassation, une grâce aussi présidentielle pourrait être possible. Mais il faudrait arrêter la procédure de cassation. Donc oui, on appelle à la grâce présidentielle, on appelle à la libération dès demain.
Voilà, Maxime Glaize, donc ce matin au micro de Benjamin Duhamel. En Malaisie, là-bas, le procès déjà reporté à 3 reprises de Tom Félix s'est finalement ouvert ce matin. Ce trentenaire, originaire de Saône-et-Loire, ex-cadre au sein du groupe Veolia, est en détention provisoire sur place depuis plus de 2 ans, accusé de détention et trafic de stupéfiants après la découverte de cannabis dans son appartement. Lui a toujours contesté ses accusations. Il encourt la peine de mort ou 104 années de détention cumulées.
Se dirige-t-on vers une nouvelle baisse du taux du livret A ?
On le sait, les livrets réglementés voient leur taux révisé 2 fois l'an, mi-janvier et mi-juillet. En l'occurrence, la formule de calcul fixe le taux en fonction de la hausse des prix des 6 derniers mois, ce qui signifie que dès que les chiffres définitifs de l'inflation pour décembre seront connus, le gouverneur de la Banque de France proposera au ministère de l'économie un nouveau taux, lequel pourrait donc encore baisser du fait justement du ralentissement de l'inflation, ce qui serait aussi indirectement une manière de relancer la consommation. Reste toutefois à voir si le gouvernement adopte une nouvelle baisse certainement impopulaire à l'approche des municipales.
Et s'agissant des prochaines élections municipales, justement, direction Agen, avec une situation pour le moins atypique.
Oui, tandis que la gauche offre chaque jour ou presque le spectacle de sa désunion à l'Assemblée autour des débats budgétaires, la ville du Lot-et-Garonne offre, elle, une image inhabituelle, l'union de toute la gauche, de LFI à Place Publique, en passant par le Parti Socialiste. Cette liste, baptisée vivement Agen, a certes été bâtie essentiellement sur des problématiques locales, mais elle a donc réussi l'exploit, Adrien Toffolet, de réunir toute la gauche avec un programme commun.
La crise entre le PS et LFI, ce n'est pas une question de personne, ce sont des désaccords politiques, analyse une cadre du mouvement insoumis qui ne rejette pas en revanche l'idée d'alliance au cas par cas lors des municipales. Position également partagée par le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, parce que les enjeux politiques sont différents au niveau local. Là, il n'est pas question de destitution d'Emmanuel Macron, d'opposition au budget Le Cornu, de suspension ou d'abrogation de la réforme des retraites, de positionnement sur Gaza, mais de problèmes locales sur lesquelles l'ensemble des forces de gauche à Agen ont construit un projet politique et une liste d'union pour l'incarner. Baptisée vivement Agen, la liste rassemble socialistes, écologistes, communistes, Ensemble, le mouvement de Clémentine Autain, le Parti radical de gauche, Place publique et même la France insoumise. Portée par Laurent Bruno, un avocat de 47 ans, élu d'opposition au conseil municipal et qui n'est pas encarté. Objectif de cette liste de gauche élargie, prendre cette ville de près de 35 000 habitants au maire modem Jean Dionis, en poste depuis 2008 et réélu dès le premier tour en 2020. Il faisait face alors à une candidature écologiste soutenue par le PS et le PCF seulement. Mais depuis, la gauche a repris du terrain à Agen lors des derniers scrutins nationaux avec Jean-Luc Mélenchon en tête des votes dans la ville à la dernière présidentielle, tout comme les candidats NUPES et NFP lors des législatives de 2022 et 2024, lorsque toute la gauche parler d'une même voix.
C'était la semaine dernière, la SNCF dévoilait le futur tracé de la ligne Lyon-Bordeaux qui contournera le Massif Central en faisant un gros détour par Poitiers et Massy en région parisienne. Or, il existe déjà en réalité une ligne de train traversant la France d'est en ouest, en passant notamment par Limoges, Guéret, Montluçon, sauf que plus aucun train ne circule sur ces rails depuis 2012. D'où la colère des élus locaux de Creuse et du Massif Central à l'annonce de cette future ligne Lyon-Bordeaux. Ils viennent d'envoyer une lettre ouverte au président de la République. Une pétition a également été lancée le week-end dernier qui a déjà recueilli plus de 15 000 signatures. Un cri du cœur, même si il y a sans doute peu d'espoir que cela change quoi que ce soit. Explication signée Marie-Jeanne Delepaule d'ici Creuse.
Quand la maire de Guéret, Marie-Françoise Fournier, découvre la carte de cette future ligne Lyon-Bordeaux, elle a du mal à y croire.
Alors j'ai cru une fake news parce que c'est tellement aberrant que je me suis dit qui a pu concevoir ce tracé ?
Un tracé de 930 km contre 500 pour la ligne historique qui traverse la Creuse, fermée en 2012.
Je crois que les habitants de nos territoires n'en peuvent plus d'être méprisés, d'être oubliés et que là, la cocotte explose.
Et ce, de tous les côtés de l'échiquier politique, à l'image du député UDR de la Creuse, Bartholomé Lenoir à l'Assemblée.
On n'a plus de train, on n'a plus de petites lignes, on n'a plus de grandes lignes. On n'a plus d'essence, l'essence coûte une fortune. Comment fait-on, monsieur le ministre ? Comment fait-on ?
Le ministre en face de lui, c'est celui des transports, Philippe Tabarot.
Le profil des voies ne permet pas de faire circuler dans de bonnes conditions des trains TGV intercités pour relier Bordeaux et Lyon via le Massif Central.
Une réponse qui fait bondir la maire de Guéret.
On nous impose bien sûr le problème du coût de la remise en état des rails, mais comme on les a négligés pendant des années, c'est pas étonnant qu'ils soient en mauvais état. Mais bon sang, le service public, il est là pour tous les Français.
Les élus se battent donc sans trop d'espoir, puisqu'il y a 3 mois, la petite ligne Guéret-Feltin a fermé malgré leur mobilisation.
Midi et 38 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Députés européens et États membres ont scellé un premier accord la nuit dernière pour développer dans l'agriculture des plantes issues de nouvelles techniques génomiques, les NGT, également qualifiées de nouveaux OGM par leurs détracteurs. Une victoire évidemment pour les plus gros syndicats agricoles qui soutiennent ces techniques pour développer des variétés à la fois moins gourmandes en engrais et plus résistantes aux aléas climatiques, et une défaite à l'inverse pour toutes les organisations environnementales comme le secteur de l'agriculture biologique. Les précisions de Jean-Jacques Herry.
Dans les champs européens, on pourra donc trouver à l'avenir ces plantes NGT, des espèces dont on modifie le génome, mais sans y introduire d'ADN étranger provenant d'une autre espèce. C'est ce qui les différencie des OGM classiques. Avec l'accord de cette nuit, une partie des semences NGT seront considérées comme des variétés classiques équivalentes aux cultures conventionnelles, même si pour cela, elles devront présenter un nombre limité de mutations, une vingtaine au maximum. Les NGT résistantes aux herbicides ou qui produisent des insecticides ne seront pas autorisées et dans l'agriculture bio, elles continueront d'être interdites. Cet assouplissement des règles agricoles s'inscrit dans un contexte plus global de détricotage des législations européennes. Elle était réclamée par les grands semenciers et les organisations agricoles au nom de la compétitivité européenne face aux marchés chinois et américains où les NGT sont autorisées. Mais pour de nombreuses ONG environnementales et un certain nombre d'élus, les inquiétudes sont nombreuses. Tous estiment qu'on a encore du mal à évaluer l'impact de la consommation de ces plantes sur la santé humaine. La traçabilité aussi inquiète, car seul l'agriculteur saura qu'il a fait pousser des semences NGT. En effet, sur le produit final, une boîte de maïs achetée au supermarché par exemple, il n'y aura aucun étiquetage obligatoire, le consommateur n'en saura rien. Et puis enfin, se pose la question de la possible contamination des cultures environnantes et des plantes sauvages par ces NGT qui pourront maintenant être cultivées en plein champ.
Comment faire taire le fracas des armes en Ukraine ?
Hier, le président américain Donald Trump a assuré que son homologue russe Vladimir Poutine voulait mettre fin à la guerre. Ce dernier a lui-même jugé ce matin très utile sa rencontre avec les émissaires américains. Alors vrai ou faux, jusqu'à présent, force est de constater que ni les pressions, pas plus que les marchandages ou les menaces brandies par Washington pour imposer la paix n'ont permis de parvenir à un compromis. Au point que sur le front, l'armée de l'envahisseur continue d'avancer lentement mais inexorablement malgré des pertes considérables. En attendant, la navette diplomatique se poursuit au surlendemain de la rencontre à Moscou entre le maître du Kremlin et les représentants américains. De nouvelles tractations sont prévues aujourd'hui en Floride, cette fois-ci avec le négociateur ukrainien.
Emmanuel Macron est arrivé en Chine hier soir.
Accueilli en grande pompe par son homologue Xi Jinping dans le cadre monumental du Palais du Peuple. Reste que derrière les cordialités diplomatiques, plusieurs urgences sont à l'ordre du jour. Un premier différend majeur concerne les relations économiques déséquilibrées, en particulier les pratiques commerciales chinoises jugées déloyales par la France et plus largement d'ailleurs l'Europe. Et puis l'autre sujet délicat concerne justement la guerre en Ukraine. La Chine, qui assure constamment vouloir la paix, est taxée de complaisance vis-à-vis de son allié russe. Autant dire que la tâche d'Emmanuel Macron ce matin venu chercher un soutien de la part de l'influent géant chinois promettait d'être compliquée. Les précisions de notre envoyé spécial à Pékin, Jérôme Val.
La tâche était ardue pour Emmanuel Macron, venir chercher le soutien décisif de Pékin pour arriver à un accord de paix en Ukraine. Il y a deux ans, lors de son précédent voyage en Chine, le président français avait appelé Xi Jinping à ramener la Russie à la raison. Tout à l'heure, après son tête-à-tête, il a jugé déterminante la capacité de coopérer avec la Chine pour arrêter les combats et sans attendre à supplier Emmanuel Macron.
J'espère que la Chine pourra se joindre à notre appel et à nos efforts pour parvenir dans les meilleurs délais à tout le moins un cessez-le-feu sous la forme d'un moratoire sur les frappes visant les infrastructures critiques. C'est clé pour l'hiver qui vient.
Une demande écoutée sans rien laisser transparaître par le président chinois devant les délégations et la presse.
Nous espérons que les différentes parties pourront, par dialogue et négociation, trouver un accord de paix équitable, durable, contraignant et accepté de toutes les parties concernées.
Mais au détour d'une petite phrase, Xi Jinping a montré son agacement.
Nous nous opposons fermement à toute accusation irresponsable et discriminatoire.
Une façon directe de répondre à ceux qui accusent la Chine d'être trop proche de la Russie pour vouloir la paix. Pékin, rappelons-le, reste le premier acheteur de produits pétroliers russes. Quelques mots qui montrent, si besoin en était, que les positions européennes et chinoises sont loin d'être totalement alignées.
Alors, au cours de cette quatrième visite d'Emmanuel Macron en Chine, et malgré donc leur divergence de vues éclatantes sur le conflit ukrainien, notamment, le président français a prévu de signer plusieurs contrats avec son homologue dans les domaines économiques, de l'agriculture ou bien encore de la culture. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Emmanuel Linco, professeur à l'Institut catholique de Paris, co-responsable du programme Asie-Pacifique à l'IRIS. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Aux côtés du chef de l'État, ce sont pas moins de 6 membres du gouvernement qui sont aujourd'hui présents au sein de la délégation française, les ministres de l'économie et des affaires étrangères bien entendu, mais aussi de l'agriculture, de l'environnement, de l'enseignement supérieur et de la culture. Selon vous, est-ce que cette liste donne une image, disons, fidèle des intérêts que la France cherche aujourd'hui à développer en Chine ?
Oui, bien sûr, et avec difficulté, comme votre reporter l'a rappelé, notamment sur le volet stratégique, c'est tout à fait évident, espérer un changement de politique de Pékin à l'égard de Moscou concernant l'Ukraine est un leurre, bien sûr, et depuis des années, Emmanuel Macron s'y essaye, évidemment sans succès. En revanche, pour les autres domaines, ils sont cruciaux, bien sûr, l'économie, pour essayer de rééquilibrer les plus de 40 milliards de déficits de notre balance commerciale au profit de la Chine, d'une part, et en s'appuyant sur des domaines où la France a clairement des atouts, et on pense en particulier à l'agroalimentaire, sachant que la Chine est exposée à un problème de sécurité alimentaire. Donc elle dépend effectivement des marchés extérieurs, et la France, de ce point de vue-là, peut y pourvoir. Quant à la culture, évidemment, l'objet même de cette visite et la participation a priori inattendue de la ministre française de la Culture, Rachida Dati, s'inscrit aussi dans cette continuité. Il s'agirait de rétablir le montant, le niveau de visiteurs, de touristes chinois d'avant la Covid, hein, c'est-à-dire 2019, où on avait un peu plus de 2 millions de visiteurs. Et pour cela, donc, il faut redynamiser ces échanges, avec difficulté aussi, parce qu'on n'est plus du tout dans une configuration d'un monde ouvert, mais d'un monde de plus en plus morcelé, de plus en plus fractionné.
Vous l'avez rappelé, l'objectif donc de renforcer les liens entre la France et la Chine constitue, dans ce contexte géopolitique commercial actuel, une gageure évidemment pour le chef de l'État. En l'occurrence, est-ce que les partenariats culturels, justement, peuvent aider, sous forme de soft power, à cet objectif global?
Oui, même indépendamment du soft power, donc l'image de la France, il y a des leviers économiques tout à fait considérables qui sont encore, à mes yeux, suffisamment inexploités. Je pense en particulier aux industries culturelles, c'est-à-dire tout ce qui a trait notamment à la vidéo, aux jeux vidéo, où les Français excellent, bien sûr, mais aussi un autre volet qui est totalement sous-exploité depuis des années par la diplomatie française, c'est celui de la francophonie. Et précisément, la stratégie qui conviendrait par rapport à la Chine, c'est bien sûr de parler, si possible, d'une seule voix au nom de l'Union européenne par rapport à la Chine, d'une manière concertée et d'une manière sectorisée, donc par secteur, mais aussi en s'appuyant sur la francophonie. Ça, c'est très important, à la fois en termes de soft power, vous avez raison, mais aussi d'un point de vue des possibles retombées sur le plan financier. Et je doute malheureusement que ce volet soit abordé, alors que pour l'avenir, il compte.
D'un mot, je reviens sur le secteur culturel. Que sait-on exactement de la façon dont la Chine conçoit aujourd'hui les questions culturelles en France?
Qui dit culture dans un régime totalitaire comme la Chine dit propagande. Et pouvoir d'influence, bien sûr. Donc cela, sur le plan institutionnel, s'est traduit depuis des années par la création d'instituts Confucius. Ils sont 18 désormais en France, ce qui est tout à fait considérable. Et c'est une diplomatie culturelle généralement soit lénifiante, soit qui met en avant une culture impériale qui manifestement ne séduit guère, et en particulier les jeunes qui préfèrent la K-pop coréenne ou le manga japonais. Donc là aussi, il y a une réciprocité assez difficile à trouver, même si la France, encore une fois, a des atouts tout à fait considérables et qu'elle peut peser dans un domaine qui, a priori, est moins sensible que les autres.
C'est bien compris. Merci Emmanuel Linco, donc professeur à l'Institut catholique de Paris et co-responsable du programme Asie-Pacifique, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Vous évoquiez tout à l'heure la guerre en Ukraine. Eh bien, malgré l'invasion russe, Moscou et New Delhi ont su maintenir des liens étroits.
Oui, l'Inde est même aujourd'hui l'un des principaux importateurs de pétrole venus de Russie, à rebours des Occidentaux, donc qui ont coupé leur robinet de brut. Par ailleurs, la Russie reste l'une des principales sources d'approvisionnement de l'Inde en matière militaire. Et enfin, la Russie arrive au quatrième rang des partenaires commerciaux de l'Inde. Autant dire, Sylvain Tronchet, que Vladimir Poutine arrive aujourd'hui en terrain conquis chez son ami, adepte du national-populisme et de l'autoritarisme électoral, le Premier ministre Narendra Modi, pour un dîner informel prévu ce soir en préambule à leur entretien officiel demain.
Le Kremlin le dit sans détour, c'est une visite particulièrement importante que mène Vladimir Poutine en Inde, flanqué de 7 ministres, de représentants de l'industrie de défense, il va être question de vente d'armes, et de présidents de compagnies pétrolières surtout. L'Inde est devenue, depuis le début de la guerre en Ukraine, le deuxième importateur de pétrole russe. Les deux tiers de son brut viennent de Russie, parce qu'il est bon marché notamment, mais New Delhi est aussi sous la pression de Washington, qui l'accuse de financer ainsi la guerre du Kremlin. Les États-Unis ont donc imposé des droits de douane très lourds à l'Inde, et ces dernières semaines, plusieurs grands importateurs indiens ont cessé d'acheter du pétrole russe. Vladimir Poutine vient donc pour tenter de sauver sa relation économique, et il peut compter pour cela sur sa relation politique, diplomatique avec Narendra Modi. Le Premier ministre indien et le président russe s'apprécient, adeptes tous les deux d'un nationalisme autoritaire. Le monde multipolaire que réclament les Russes s'imbrique dans la stratégie du non-alignement indien. Pour Moscou, il faut que cette entente ait une traduction dans la balance commerciale.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par une perturbation pluvieuse qui gagnera les deux tiers du territoire. Seuls quelques timides éclaircies persisteront en Alsace et dans l'extrême sud-est. Quant aux températures, elles seront comprises entre 6 et 12 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Axel Dubois et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.